Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, les manuscrits retrouvés de Céline. Bonjour Émile Bramy.
Bonjour.
Vous êtes notre invité, vous êtes l'auteur de plusieurs essais sur Céline et fondateur d'une librairie de référence sur l'écrivain à Paris, qui s'appelle D'un livre l'autre. On peut dire que vous êtes vraiment un grand spécialiste de l'un de nos plus grands écrivains, dont la vie évidemment est en décalage avec avec l'admiration qu'on peut lui porter. On y reviendra. Alors, depuis août dernier, vous avez pu voir, consulter toute ou partie de ces manuscrits, enfin une partie j'imagine. Qu'est-ce que vous avez ressenti ?
Bah écoutez, c'est une sensation absolument extraordinaire, c'est-à-dire de se retrouver d'être parmi les premiers à voir des choses pendant lesquelles moi personnellement j'ai couru pendant plus de 20 ans. Et certains de ces manuscrits sont très lisibles, c'est-à-dire que c'est la première écriture de Céline, qui est une petite écriture parfaitement facile à déchiffrer, contrairement à ce que sera la suite. Moi j'ai cherché pendant des années deux livres, Le roi Krogold et ce qui nous manquait de Casse-pipe, et de se retrouver devant ces manuscrits qu'on a cherchés si longtemps, c'est une sensation absolument extraordinaire. Et c'est ce que disait François Gibault, c'est qu'on a vraiment l'impression d'être...
Qu'il est vivant.
Oui, de se retrouver très proche de cet écrivain-là, quoi. Et moi, j'ai essentiellement regardé, parce qu'il y en avait tellement que c'était impossible, j'ai de tout voir, j'ai essentiellement regardé Londres, parce que c'est le manuscrit complet d'un texte absolument inconnu, et je me demande...
Qui date de 1915, il raconte son séjour en 1915, c'est ça ?
Il raconte son séjour à Londres en 1915, et on pourrait penser que c'est quelque chose qui est un brouillon de Guinness Band qui va paraître en 1944. En réalité, pas du tout. On sait par des lettres que Céline avait écrit une partie de son passage à Londres, mais qu'il ne l'avait pas intégré à Voyage au bout de la nuit parce que le livre était déjà très important et que on ne pouvait pas y ajouter ça. Mmh. Et donc, manifestement, il a écrit ce séjour à Londres. À mon avis, parce que c'est assez facile à dater quand on regarde le manuscrit, à mon avis, entre la fin de la rédaction de Voyage au bout de la nuit et le début de la rédaction de Mort à crédit. Voilà. Par exemple, à l'intérieur du manuscrit, il y a des feuillets qui sont écrits sur des ordonnances
de médecine
du dispensaire de Clichy où travaillait Céline à cette époque-là. Donc c'est pas très difficile à dater.
Dans votre vie de passionné de Céline, auteur vous-même, libraire, ça a été un moment, il y a eu un avant et un après, cet événement-là, pour vous.
Ah oui, il y a un avant et un après, parce que si vous voulez, c'est l'émergence d'une partie de l'œuvre qui est, mis à part, encore une fois, Krogold et Casse-pipe, qui est inconnue. Si vous voulez, on savait qu'il y avait quelques chapitres de sur l'hôpital qui avaient été écrits, mais on savait pas précisément quoi. On savait pas Londres, personne n'en avait jamais parlé.
Ouais,
donc c'est vraiment une espèce de découverte absolument extraordinaire. Et puis en quantité, c'est très important. C'est-à-dire que
ça représente quoi à peu près
Le volume, c'était l'équivalent d'une très grande table
couverte de piles de feuilles.
Voilà. Mais si vous voulez simplement. Céline, c'est quelqu'un qui a pas beaucoup écrit. Et ce qui ressort, c'est à peu près, en plus, 25% de l'œuvre connue. Donc c'est énorme.
C'est
énorme.
Bien
et il n'y a pas d'exemple de précédent d'une telle découverte pour un écrivain de ce calibre-là.
Alors, maintenant, sur l'écrivain,
oui.
Qu'est-ce que vous aimez dans son écriture ? Je dis bien, je parle pas de l'homme, je parle de l'œuvre.
Alors, moi je...
En résumé, parce que je pense que vous pourriez m'en parler une heure.
Alors voilà, si vous voulez, moi, si je suis tellement passionné par Céline, c'est que si on accepte le côté antisémite, c'est quelqu'un qui dit le monde exactement comme moi je le vois. C'est-à-dire avec à la fois un immense pessimisme et en même temps rire de ce pessimisme. C'est-à-dire c'est le monde est horrible, on peut se mettre à pleurer, c'est pas très intéressant, autant rire de cette horreur. Voilà. Et donc c'est quelqu'un qui exprime le monde tel que je le ressens et infiniment mieux que moi, je ne pourrais l'exprimer jamais.
Parce qu'il a un vrai talent d'écrivain, c'est ça. Ça fait partie de nos grands écrivains.
Bien sûr, c'est un écrivain majeur. Mais là, il n'y a pas très très longtemps, au tout début du mois de janvier, Le Monde a publié une espèce d'enquête sur les 100 meilleurs livres toute littérature confondue. Mm-hmm. Bon. Le numéro un, c'est Harry Potter. Bon, bon c'est un peu, embêtant, mais on peut supposer que c'est juste un moment.
Oui.
Le numéro deux, c'est Voyage au bout de la nuit.
Ouais.
C'est-à-dire que le livre le plus cité, si on accepte Harry Potter, qui est une mode du moment, c'est Voyage au bout de la nuit,
pas, oui.
Toutes les littératures confondues. Mmh. Voilà. Donc, si vous voulez, ça donne la mesure de l'écrivain qu'est Céline.
Il tombe. Entre autres, voilà, on s'en souvient quand on a lu ces mots. Alors, ça nous renvoie quand même à une problématique toujours gênante, et on doit toujours vous poser la question, mais
oui.
Pourquoi pas de la séparation de l'homme, enfin de l'artiste, ou de la femme,
hein,
et de l'œuvre. Alors ça renvoie par exemple à la problématique autour de Polanski, même si les griefs ne sont pas du tout de même nature, comment vous vous positionnez, vous? Est-ce qu'on peut admirer quelqu'un qui a été antisémite et collabo, et qu'on a retrouvé à Sigmaringen?
Il n'y a aucune séparation entre l'homme et l'œuvre, aucune.
Mmh.
Si vous voulez, Céline, c'est quelqu'un qui grandit dans un milieu antisémite, qui a été nourri à la petite cuillère d'antisémitisme et qui toute sa vie a été antisémite, et il n'a jamais, par exemple après la guerre, dit je me suis trompé. Il a toujours dit j'ai eu raison trop tôt. Voilà, c'est ça son discours.
Oui.
C'est on ne m'a pas écouté, il fallait pas entrer en guerre, j'ai eu raison, et après les événements m'ont donné tort, mais moi j'ai eu raison. Donc si vous voulez, moi je ne fais aucune différence entre l'homme et l'écrivain. Le problème c'est qu'il faut accepter les deux. Voilà, c'est-à-dire et c'est quand même, ça n'est pas facile. Pas
j'imagine
facile
quand
du
même.
Tout.
Parce que si on partage pas ces idées, comment on arrive à pas faire la séparation?
Bah, si j'ose dire, je vais employer une platitude, c'est le miracle de la littérature.
Mmh.
C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui arrive par son écriture, par son style...
À transcender tout ça, c'est ça que vous voulez dire?
Oui. Et on peut aller plus loin, et je sais que ça choque tout le monde, c'est que quand on lit Bagatelle pour un massacre, qui est un texte ignoble par certains côtés, vous avez aussi, dans ce texte-là, de très grandes pages. Des pages d'un très grand écrivain.
Émile Bramillon se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté Nilufer Nyangia Stabilize.
Oh,
Émile Brami, comment vous participez à cette procédure qui a permis de remettre la main sur ces trésors? C'est-à-dire, quel a été votre rôle, à partir de quelle étape?
Alors, il se trouve que à la toute fin du XXe siècle, j'ai acheté à la... J'étais donc libraire d'ancien, je travaillais sur Céline. J'ai acheté à la succession Tix-Sévignancourt, qui a été l'avocat de Céline. Mmh. J'ai acheté ce qui s'appelait le dossier Céline. C'était un énorme dossier avec toutes les procédures auxquelles Tix-Sévignancourt et Céline avaient participé. Bon, c'était beaucoup de paperasse, sans grand intérêt. Et à l'intérieur de tout ça, il y avait ce que moi j'appelle des petits dossiers périphériques. Et entre autres, il y avait le dossier de l'acteur Le Vigan. Et Le Vigan, dans une grande lettre manuscrite que je possède toujours, se plaint qu'un certain Rosembly a fait une perquisition chez lui et qu'il a embarqué tous les objets de valeur. Bon. Et à côté de ça, il y a des interrogatoires, donc les interrogatoires de Rosembly, l'interrogatoire de Le Vigan, et quelqu'un, sans doute, soit un des policiers, soit quelqu'un de la... du cabinet de Tixier, a rajouté à la main, comme chez LF, Louis Ferdinand.
Ah, Louis Ferdinand.
Comme chez LF. Et donc, à ce moment-là, moi j'ai à peu près tout lu de Céline, donc je savais que certaines lettres accusaient nommément Rosembly. Je savais aussi que dans une version primitive d'un de ses livres, il accusait nommément Rosembly, et que, bon, dans des courriers aussi. Donc je me suis dit que c'était peut-être une piste. À l'époque, donc j'ai fait la liste des Rosembly de France, et je leur envoyais à chacun une lettre. Ils étaient 160, en leur disant, bah écoutez, si vous avez des renseignements à me donner, donnez-les-moi. Donc j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit non, c'est pas moi, je sais pas. Et puis quelqu'un qui habitait dans la région de Metz m'a dit bah oui, et m'a donné l'adresse de sa cousine qui était Marie-Luce Rosembly. J'ai donc pris contact avec Marie-Luce Rosembly.
Dont on a parlé dans le récit, effectivement.
Voilà, qui est donc la fille d'Oscar, puisque Oscar est mort en 1990.
Ouais.
Et pendant deux ans et demi, j'ai téléphoné quasiment une fois par jour, enfin deux, trois fois par semaine au moins, à Marie-Luce Rosembly. Et certains de nos échanges m'ont laissé entendre qu'effectivement, elle avait des choses.
Bon. Ouais.
Mais il se trouve que Marie-Luce Rosembly, tel que je l'ai connu, hein, je l'ai jamais rencontré. Le seul à l'avoir rencontré, c'est Jérôme Dupuis. Marie-Luce Rosembly était une personnalité très 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 curieuse, une femme très compliquée.
Bah, son père était pas mal non plus. Hein.
Oui, mais je pense que c'est très compliqué. Si vous voulez, elle m'a lanterné. Et puis, en plus, je lui donnais de l'importance. Et à partir du moment où si elle m'avait remis quelque chose, bah, cette importance aurait disparu. Donc, au bout de 3 ans, je m'aperçois que je n'en tirerai rien. Je connais très bien Jérôme Dupuis, qui est un ami, qui à l'époque était journaliste d'investigation à l'Express. Et je me dis que peut-être un journaliste d'investigation arriverait mieux à obtenir quelque chose de Marie-Luce que moi.
Ouais.
Donc Jérôme prend, je lui donne les renseignements que j'ai, il prend le relais, comme moi il pense qu'elle a quelque chose, et comme moi au bout d'un an il dit tu sais on n'en tirera rien et on laisse tomber. Donc très très mécontent mais bien obligé, on laisse tomber. Et puis en 2016, il se trouve que j'appartiens à la société des études céliniennes comme Véronique Chauvin que je connais bien. Véronique Chauvin me dit dans la conversation qu'elle va aller en vacances en Corse à Corté où elle a une maison. Donc je dis ah ben c'est très très bien, essaye de prendre contact avec Marie-Luce Rosembly. Elle prend contact avec Marie-Luce Rosembly qui lui dit qu'elle a des choses, et d'ailleurs Véronique Chauvin en a témoigné depuis.
Oui.
Et la même chose, c'est-à-dire on se heurte à un mur au bout d'un certain temps. Donc moi j'étais persuadé que Marie-Luce Rosembly avait quelque chose et j'étais persuadé que ça ne sortirait jamais.
D'accord. Donc là vous faites une vraie enquête et puis il y a Thibaudat. Donc qui débarque. Alors il y a quelque chose qui est très intéressant chez Thibaudat, c'est effectivement il les a gardés.
Oui.
Et on comprend assez bien la volonté des familles résistantes que la femme de Destouches, c'est-à-dire la femme de Céline,
oui, oui. Hein,
qui s'appelait Louis Ferdinand Destouches, ne touche pas d'argent sur pas sur une vie qui n'était pas recommandable. On peut les comprendre.
Alors, on peut les comprendre, à une condition cependant, c'est d'accepter l'histoire Thibaudat.
Alors, pourquoi vous dites ça? On peut ne pas l'accepter?
Eh ben, pour moi, ça tient pas debout.
Tiens donc, allez-y, dites-moi.
Je vais tout à fait clair. Si vous voulez, ce que raconte Thibaudat, c'est que des résistants viennent faire une perquisition chez Céline pendant l'occupation, avant la libération de Paris. Or, il faut savoir que l'endroit où vit Céline, c'est un tout petit village. Tout le monde connaît tout le monde. Il y a une concierge qui s'appelle Madame Bégoin dans l'immeuble. Et il faut passer par Madame Bégoin si on veut rentrer. Donc, je vois pas comment, déjà, ces gens-là sont rentrés.
D'accord.
Ensuite, on est à la toute fin de l'occupation. Paris est à feu et à sang. Hein. Il y a des attentats partout. Il y a des patrouilles allemandes. Donc, il faut imaginer que ces gens-là, que Thibaudat présente comme des gens qui ne sont pas des gens cultivés. Bon, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent chez Céline et au lieu de prendre les choses qui ont de la valeur, ils prennent des manuscrits. C'est déjà très très étonnant.
Oui.
Il y a 300 kilos.
D'autant plus s'ils ne vendent pas.
Oui, il y a 300 kilos de plusieurs valises. Donc, il faut se promener dans Paris pendant le couvre-feu. Souvenez-vous, la traversée de Paris, Monsieur Jambier, avec des valises.
Jambier.
C'est ça. Avec des valises et risquer de se faire arrêter.
Ouais.
Ensuite, quand on fait de la résistance, un des points le plus important, c'est pas seulement de faire des actions, mais c'est de donner de la publicité à ces actions. C'est-à-dire, vous voyez, on est en train de résister, on se bat pour vous, etc. Or, pas un mot. Il y a une presse clandestine très très importante à la fin de la guerre. Personne ne dit un mot. La première fois où on parle de cette perquisition, c'est il y a un an, Thibaudat. Et moi, j'ai fait des recherches, puisque on peut aujourd'hui consulter les journaux sur le site de la BN. Il n'y a pas un journal qui évoque cette perquisition.
Merci beaucoup, Évin Brami. Au revoir.
Merci, au revoir.
Et Affaires Sensibles, aujourd'hui, les manuscrits retrouvés de Céline, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur le site de France Inter, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Tiffany Battistel. Et puisque nous sommes vendredi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Sophie Bobert, Stéphanie Fromentin, Constance Villanova, Adrien Mora et Isabelle Maillot. Attachée de production, Rebecca Denante. Programmation musicale, Valentine Chedebois. Lecture, Aurélien Labruyère, Alexandra Bensaïd, Béatrice Duguet et Sarah Guibaudeau. Coordination, Christophe Barrère. Réalisation, Marion Lelay, Céline Dila et Charles de Cilliard.